Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
La Bible est le livre le plus vendu au monde. L'Alliance biblique universelle estime à 34 millions le nombre de Bibles vendues en 2016, avec les plus fortes croissances de vente dans des pays inattendus. Brésil, États-Unis, Chine, Nigeria et Inde. En France, il se vend environ 200 000 Bibles par an. Et la Bible Bayard publiée en 2001 s'est vendue à 170 000 exemplaires. À ces chiffres, il faut ajouter les versions numériques qui sont de plus en plus présentes sur Internet. Il a fallu des siècles et de nombreux auteurs pour produire les textes bibliques, les organiser, les traduire, afin d'aboutir à la Bible chrétienne que nous connaissons aujourd'hui. Mais peut-on vraiment la considérer comme un livre ? N'est-elle pas plutôt une collection de livres, voire une véritable bibliothèque ? Dans ce numéro de Selon les Écritures, nous proposons à nos auditeurs de faire la radiographie de leur Bible. Et nous comptons sur vous, Père Alain, pour nous donner quelques points de repère sur son contenu, son histoire et sa production. Tout le monde connaît la subdivision de la Bible chrétienne entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Pouvez-vous d'abord nous rappeler en quelques mots ce que contient l'Ancien Testament ?
Alors c'est une question évidemment qui n'est pas facile. L'Ancien Testament, c'est une désignation qui a été faite assez vite lorsque s'est imposé le Nouveau Testament, c'est-à-dire on a parlé d'Ancien Testament, pour justement faire contrepoids ou équilibrer le rapport avec l'Ancien Testament. C'est pas sûr que ce soit une appellation d'ailleurs très juste. Aujourd'hui, on cherche à trouver d'autres expressions, le Premier Testament, l'un ou l'autre testament. Enfin, on voit bien que il y a un problème, si vous voulez, de coordonner au fond quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire, la Bible hébraïque, elle a son histoire, elle a son originalité. On va en reparler tout à l'heure. Et les premiers chrétiens s'inscrivaient dans la tradition de la Bible hébraïque, c'est-à-dire, même s'ils ne la lisaient pas en hébreu, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, lorsque les premiers écrits chrétiens vont se développer, c'est-à-dire, on pourrait dire à partir du premier siècle, la fin du premier siècle, à ce moment-là, va naître une autre littérature qui va être appelée Nouveau Testament. Et du coup, on aura tendance à penser ancien, nouveau, avec des dérives parfois dangereuses sur lesquelles nous parlerons, qui voudrait parfois éliminer l'Ancien dans la mesure où le Nouveau se suffirait à lui-même. Donc il nous reviendra un peu tout à l'heure. L'Ancien Testament, on pourrait dire, c'est un ensemble de livres. Vous avez évoqué l'idée d'une bibliothèque, c'est-à-dire que bibliothèque, c'est un rassemblement de livres très souvent assez hétérogènes, même s'ils peuvent avoir une unité thématique. La Bible, c'est à la fois une bibliothèque, vous l'avez bien dit, mais en même temps, c'est un livre, c'est-à-dire, c'est un livre qui a une intrigue. Et cette intrigue, elle est propre au peuple d'Israël, comme elle est propre à nous. Et elle n'a pas la même thématique dans la mesure où ça commence de la même façon pour les Juifs que pour nous, mais ça ne finit pas de la même manière. Donc, il y a deux lectures différentes, et il faudra sans doute, je pense que nous y viendrons peut-être à la fin de notre rencontre, évoquer au fond le lien entre les deux et comment au fond l'harmonie est possible entre la Bible hébraïque et la Bible chrétienne, parce que je crois que c'est indispensable de trouver un regard juste sur ces questions-là, en particulier après la Shoah.
Alors effectivement, vous rappelez que les livres de l'Ancien Testament sont presque tous communs aux Juifs et aux chrétiens. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le contenu de cette bibliothèque hébraïque ?
Alors, voyez, je vais vous faire juste une comparaison. Il faudra peut-être après s'éclaircir là-dessus. Quand on regarde la Bible hébraïque, on arrive à un chiffre de une trentaine de livres, 24 livres. Il y a 24 livres dans l'Ancien Testament. Mais certains regroupant, par exemple, les petits prophètes, une douzaine de prophètes, ça ne fait qu'un livre. Donc 24 livres chez les juifs. Chez les chrétiens, il y en a 46. Et chez les protestants, 39. Alors on me dirait, mais c'est curieux, entre catholiques et protestants, on n'a même pas la même façon de calculer. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de livres qui sont considérés comme des livres apocryphes parce qu'ils n'ont pas été écrits en hébreu ou qu'on n'a pas retrouvé l'hébreu. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc ces livres qui ne sont pas en hébreu sont considérés comme des livres apocryphes par les protestants, d'où la différence de comptabilité, ils ne les considèrent pas comme révélés. Et nous, nous avons accepté ces textes qui sont en grec et non pas en hébreu. Et donc ça pose évidemment la différence entre à la fois les juifs, les catholiques et les protestants.
Alors justement, concernant la Bible juive, la Bible hébraïque, la pièce maîtresse, c'est quand même ce qu'ils appellent la Torah, que nous appelons le Pentateuque, avec les cinq livres auxquels nous nous référons. Que pouvez-vous nous dire là-dessus?
Alors évidemment, vous, en posant cette question, vous soulevez un énorme problème qui n'est pas facile à résoudre, hein, et qui est au fond le problème de l'origine et du développement de la Bible hébraïque. Comment s'est écrit ce livre? C'est quelque chose de compliqué. On pourrait presque dire, ça pourra nous aider peut-être dans l'avenir, on pourrait dire jusque aux années 1900-1950, si on veut être large, hein, l'Église catholique a pensé que tout cela était une révélation immédiate de Dieu. Et puis est advenu, mais nous en reparlerons sans doute plus longuement, est advenu ce qu'on a appelé la critique biblique, le siècle des Lumières, tout ce qui a posé des questions, et où, à ce moment-là, on a bien sûr posé des questions autour de ces livres. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, par exemple? C'est cette idée que c'était Moïse qui avait écrit. Aujourd'hui, on sait que Moïse n'a rien écrit et que donc il faut trouver d'autres voies. Et ce que l'on peut dire, peut-être au stade où nous en sommes de notre dialogue, c'est que on pourrait dire qu'entre les années 1100 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ, c'est ce temps dans lequel s'est écrite la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a un développement très large dans le temps où s'est écrit la Bible, avec des écrits très différents, des écrits de différentes époques. Par exemple, si vous prenez le prophète Isaïe, dans Isaïe, vous avez des textes du 8e siècle, vous avez des textes du 6e siècle, 5e siècle. Et c'est très complexe. La critique a fait un gros travail. Et son travail, il est, je pense, aujourd'hui, il est assez reconnu par les spécialistes, c'est-à-dire en dehors des fondamentalistes qui veulent absolument prendre la Bible comme une parole de Dieu immédiate et directe. Nous savons bien, nous, qu'il y a un travail d'écrivain, et en particulier, alors on y reviendra, la productivité, la fécondité de l'exil. L'exil a été le grand temps de la maturation où les écritures ont trouvé leur forme définitive. Et ça, évidemment, pour nous, c'est important.
Alors justement, puisque vous parlez de la forme des écritures, on voit bien que les livres de l'Ancien Testament appartiennent à différents genres littéraires qui reflètent les personnalités de leurs auteurs. Ceux-ci pouvaient être des sages, des prophètes, des juristes, des chroniques, des poètes. Que sait-on sur la façon dont ils élaboraient et transmettaient leurs textes?
Disons modestement d'abord qu'on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que d'après la tradition juive, normalement, si Israël n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu besoin de rien d'autre que du Pentateuque, que des cinq premiers livres, la Torah. La Torah, elle contient tout ce qui est nécessaire pour la vie d'un croyant. Il n'y a pas besoin d'autre chose que de la Torah.
On peut peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'il y a dans la Torah.
Alors la Torah, c'est les cinq livres, les cinq grands livres, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. C'est les cinq grands livres. Maintenant, ils se sont, pour dire, fédérés de manière très variée, parce que de temps en temps, alors je ne vais pas inonder nos auditeurs avec des questions subtiles, mais aujourd'hui, il nous arrive de parler non pas de Pentateuque, Penta ça veut dire 5 en grec, hein, Pentateuque, mais de Tétrateuque, ça ferait plus que 4, Tétra, ou même d'Hexateuque, ça ferait 6, en ajoutant Josué. C'est-à-dire que vous voyez que c'est très complexe, parce que si vous lisez le Pentateuque, depuis le début jusqu'à la fin, il y a une intrigue, et l'intrigue, c'est quand le peuple d'Israël va-t-il entrer dans la terre promise? Or, l'aboutissement de l'intrigue, c'est Josué. Et donc, il y a une tentation qui serait de dire, intégrons Josué au Pentateuque, ça fera un hexateuque, parce que c'est la fin de l'histoire. Or, précisément, à l'exil, volontairement, on va laisser en dehors Josué. Comme si on voulait nous faire comprendre, au fond, que on n'est jamais arrivé complètement dans la terre promise et qu'on est toujours au seuil de la terre promise. C'est évidemment une thématique. Et l'autre aspect que peut-être on va reprendre, les grands rabbins juifs disent que si Israël n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu autre chose que le Pentateuque. Tout est inclus dans le Pentateuque. Et donc, c'est parce qu'Israël a péché qu'il a fallu les prophètes. Et puis, après les prophètes, la sagesse. C'est les trois grandes catégories. Vous évoquiez tout à l'heure la Bible, c'est les trois grandes catégories. Le Pentateuque, c'est le cœur de la révélation. C'est sur le Pentateuque que va se jouer le destin de Jésus, c'est clair. Et puis, vous avez ensuite les prophètes qui vont donner les éclairages à partir du Pentateuque. Et puis, les sages qui vont aborder d'autres approches autour de la sagesse humaine, mais qui est aussi un aspect important avec Job en particulier.
Si je comprends bien, l'ordonnancement des livres, hein, qui peut être effectivement assez complexe, vu ce que vous dites, il y a un fil conducteur, il y a une logique, il y a une continuité dans l'histoire.
Bien sûr, d'autant plus que se pose la question de à quel moment fallait-il s'arrêter. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question à la fois pour le Nouveau Testament, on aura l'occasion d'y revenir à d'autres moments, que pour l'Ancien, c'est-à-dire à quel moment s'arrêter, à quel moment la révélation prend-elle fin. Et on est aujourd'hui convaincu que l'exil a été le temps de la maturation de l'histoire d'Israël. On a du mal à imaginer ça, mais aujourd'hui, il y a une sorte de consensus qui se dégage parmi les spécialistes pour dire la période longue de l'exil. N'oubliez pas que l'exil, ça a été quand même deux générations, hein. Et ceux qui sont allés en exil, c'était pas les gens les plus ignorants, c'était les savants de l'époque. Babylone était habile, il prenait... Quand il vainquait un peuple, quand il triomphait d'un peuple, il prenait l'élite pour le déporter chez eux. Et c'est ce qui est arrivé avec Israël. C'est-à-dire, ceux qui sont allés en exil sont devenus des grands savants, y compris dans la langue de Mésopotamie. Ils ont appris la langue, ils ont appris les mythes. Et quand ils vont revenir, ils vont infuser dans leurs propres textes, au fond, des éléments qu'ils ont puisés, mais avec une richesse, bien sûr, très grande. On en reparlera. Mais c'est dire que l'exil a été le temps un peu de la fin, on pourrait dire, de cette période. Avec, on dit quelquefois, mais on y reviendra certainement à un moment donné, on dit l'exil, c'est le temps qui a donné naissance à la fois au judaïsme et au christianisme. C'est dans l'exil que l'un et l'autre sont nés avec des ouvertures et des approches différentes.
Alors il y a une question pratique qui se pose. On parle des écritures, mais avant qu'il y ait des écritures, il y avait des traditions orales. Comment se sont articulées les choses? Quand est-on passé d'une tradition orale à une écriture, justement?
Oh, question là aussi très compliquée. Ce qui était rassurant autrefois, on a beaucoup vécu là-dessus, c'est qu'on était convaincu que la Bible avait été écrite par Dieu directement. Et donc, on était tranquille à ce moment-là. Tout était vrai, littéralement et dans tous les sens, c'était la vérité biblique. Mais quand la critique est apparue, déjà dès le XVIe siècle, même avant, on s'est quand même posé des questions. Comment ça se fait qu'on a pu écrire ces textes? Qui les a écrits? Comment on les a écrits? Donc, il y a eu... Oui, une période de grande maturité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à peu près au clair là-dessus. C'est-à-dire, on sait que c'est une écriture qui s'est progressivement intégrée avec des ajouts, avec des psaumes, avec un tas de réalités, si vous voulez, qui font que ça s'est unifié d'une certaine manière à travers les regroupements que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la Torah, les prophètes et la sagesse, dont le sommet et les psaumes, bien sûr, hein. Mais à ce moment-là, on interrompra l'écriture avec des causes évidentes, en particulier au moment où Alexandrie va se développer une approche des écritures à travers le grec et non plus à travers l'hébreu, où donc vont se poser des nouveaux problèmes. Comment lire les écritures quand on ne connaît plus la langue maternelle, qui est l'hébreu, dans lequel sont écrits les premiers textes?
Alors justement, les premiers chrétiens utilisaient la Bible hébraïque dans la traduction en grec, dite de la Septante. Pourriez-vous nous dire un mot sur cette première traduction produite à Alexandrie?
Oui, c'est une aventure merveilleuse. Hein. On aurait besoin aujourd'hui de redécouvrir le côté merveilleux. C'est une audace extraordinaire de la part des juifs d'Alexandrie, les savants d'Alexandrie, parce qu'il y avait beaucoup de savants à Alexandrie, d'avoir pris l'audace de traduire pour la première fois l'hébreu en grec. Ça a été une audace extraordinaire. Et ça s'est passé autour du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et ça a été une aventure formidable. Et vous avez raison de le souligner, mais peut-être que nos auditeurs ne s'en rendent pas compte totalement, de se dire qu'au temps de Jésus, la seule écriture à laquelle on avait accès, c'était la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque. On n'avait pas accès à la Bible hébraïque. Les gens ne savaient plus l'hébreu, parfois l'araméen, et donc ils ont eu besoin. Et tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Il n'y a rien qui soit écrit en hébreu, ni en araméen. Donc c'est la langue grecque qui va prendre le pas, on pourrait dire, et elle va devenir, au fond, la référence. On l'oublie souvent, ça, que les premiers chrétiens ont lu la Bible en grec et pas. Et cette traduction grecque, ça nous pose évidemment parfois des questions, parce qu'est-ce qu'elle est identique à la version hébraïque. Il y a des passages fameux que l'on débat, dans lesquels on voit qu'il y a des écarts et qui signifient souvent beaucoup de choses. Peut-être une anecdote, peut-être pour nous aider à comprendre ça. On évoquera Saint Jérôme un peu plus tard, mais Saint Augustin, qui ne savait ni l'hébreu ni d'autres langues, hein, Saint Augustin avait écrit à Saint Jérôme, avec beaucoup de respect, pour lui demander « Est-ce que la Bible grecque est inspirée ?» C'est une bonne question. La traduction grecque, est-ce qu'elle est inspirée? Et Saint Jérôme, qui était un peu agacé par les questions de Saint Augustin, lui avait répondu un peu brutalement, elle est inspirée quand elle suit le grec, quand elle suit l'hébreu. Sous-entendu, quand elle s'écarte de l'hébreu, elle n'est pas inspirée. Ce que nous ne dirions pas aujourd'hui. On pourrait penser, par exemple, je prends un exemple et je m'arrête là, la jeune fille va enfanter, chapitre 6 d'Isaïe, la jeune femme va enfanter. Comment se fait-il que dans la traduction grecque, alors qu'ils connaissaient bien l'hébreu et le grec, les traducteurs, au lieu de mettre la jeune femme, ils vont mettre la Vierge, la Parthénos. La Vierge, la jeune femme du chapitre 6 d'Isaïe est devenue la Vierge, la Parthénos, dans la Septante. Est-ce que c'est une erreur de traduction ou est-ce que c'est un choix voulu peut-être dans la spiritualité qui avait évolué par rapport au Messie, qui viendrait non plus d'une femme mariée, mais d'une vierge. Et donc, vous voyez comment les traductions peuvent modifier. Et Saint Jérôme avait répondu, comme je vous l'ai dit, elle est inspirée uniquement quand elle suit l'hébreu. Aujourd'hui, nous ne dirions pas ça. Même quand elle ne suit pas l'hébreu, elle est inspirée.
Il y avait carrément un petit choc des cultures le monde hébraïque sémite et le monde hellénique.
Oui, c'est vrai que c'était ces deux. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste un peu. On a beaucoup traduit la Bible, on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des milliers de traductions de la Bible. Mais les premiers qui ont osé traduire la Bible de l'hébreu, c'est quand même les Grecs de l'Alexandrie. Moi, ça me donne quelquefois un certain regret. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Comment se fait-il que dans l'Église primitive, on ait si peu évoqué l'Église d'Alexandrie, alors que Alexandrie a été le lieu, et puis l'Égypte en général, où les grands manuscrits sont nés, comment se fait-il qu'il y ait cette discrétion? On y reviendra sans doute à un autre moment.
Voilà, vous créez un peu de suspense, parce que nous sommes au terme de cette première émission consacrée à cette radiographie de la Bible. Merci à vous, Père Alain Marchadour. Nous poursuivrons cette exploration de la bibliothèque biblique la semaine prochaine, même jour, même heure. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.